Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Un élément supplémentaire qui peut nous faire redouter un risque de récession, c'est le recul du baril de pétrole. On en est passé sous les 85 dollars dans la journée d'hier pour la référence de mer du Nord, le Brent. Et il y a une nouvelle prévision de croissance relevée à la baisse par l'OCDE pour les États-Unis. Et il y a un indice PMI de S&P Global pour l'Europe qui laisse redouter une récession légère, mais récession quand même, au début de l'hiver, ou en tout cas pour l'hiver qui s'annonce. Donc dans ce contexte, est-ce que les banques centrales doivent faire pause sur la remontée des taux ? On décortiquera ce portrait social de l'INSEE. Les effets des baisses d'impôts et des différentes aides exceptionnelles en 2020 et 2021, elles ont rapporté combien ? Alors on a une moyenne, mais quand on regarde évidemment décile par décile, on voit que ce sont les plus riches qui ont empoché le plus de gains. Du coup, hier, le débat a basculé autour du Macron président des riches, puisqu'effectivement, la moyenne est plus élevée pour le décile 7, décile 8, décile 9, décile 10. Et il y a de quoi effectivement alimenter ce sujet, mais fondamentalement, est-ce que l'accusation est vraiment fondée ? On dira un mot de l'assurance chômage sur l'arbitrage qui a été retenu, et puis une réforme des retraites, mais différente. Une réforme des retraites imaginée par Jacques Delplat, qui est avec nous dans ce studio, je vous en dirai plus. Bonjour Jacques Delplat.
Bonjour.
Ravi de vous voir. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu, économiste. Vous avez fondé et vous présidez un fonds destiné à financer des actions de décarbonation qui s'appelle Climatech.
Oui, c'est pour lancer, c'est pour faire un peu de, on va dire, d'arbitrage sur le prix du carbone.
Ça veut dire quoi, faire un arbitrage ?
Eh bien, faire investir dans des projets de décarbonation dans des endroits où c'est pas cher.
D'accord.
Et les revendre plus cher à des gens qui recherchent des crédits carbone.
D'accord. On essaiera de dire un mot du prix du carbone, parce que c'est votre cheval de bataille, je le vois bien. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, et vous avez coécrit Une autre voie est possible, vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Et Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Doyen de l'École des affaires publiques de Sciences Po et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. La récession, est-ce qu'il faut la redouter, Éric Ayer, ou pas ? La plupart des économistes disent qu'on ne peut pas y couper, que ça va arriver, en dépit d'ailleurs des décisions de politique monétaire.
Bon, attends, il faut s'entendre sur récession, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est un trimestre, deux trimestres de négatif, vous voyez, ou est-ce que c'est un peu plus structurel ? Est-ce que ça va être une année 2023 en négatif, etc. Bon. Oui, alors, comment on peut le faire déjà sur le très court terme ? On peut regarder les enquêtes de conjoncture. Bon, ça peut nous aider à essayer de comprendre que nous disent ces enquêtes. C'est que globalement, on devrait éviter la récession. Bon, vous voyez, quand on prend même les enquêtes de l'INSEE, de la Banque de France pour la France, ou même les enquêtes IFO, bon, globalement, on est sur un zéro plus. Donc, on n'est pas, on peut pas encore dire à travers les enquêtes qu'on va être en récession. Moi, il me semble que ce qui est un peu plus intéressant, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui on a très peu de croissance. Parce que, vous voyez, on peut prendre un peu de recul par rapport à 2019. Vous voyez, l'Allemagne produit la même chose 3 ans après la crise. Qu'en 2019. Bon, quelque part, on peut considérer que c'est une sorte de récession, une récession par habitant. Le PIB par habitant est plus faible aujourd'hui qu'avant la crise. En France, on n'est que 1% par rapport à 2019. C'est une croissance très faible. Alors que, vous voyez, quand on revient il n'y a pas si longtemps, en 2021, ce qu'on prévoyait pour 2022, c'était 4% de croissance. C'était énormément de croissance. Comment on a pu passer de 4% de croissance à finalement une zéro en glissement ? Parce qu'il y a eu différents chocs. Alors, regardons ces chocs. Problème d'approvisionnement, notamment en Chine, avec la fermeture au début des années, de l'année 2022. Crise énergétique avec des prix qui explosent. Augmentation des taux d'intérêt des banques centrales qui a fait que globalement, ça a renié la croissance. Bon, incertitude liée à la guerre. Bah, regardons où on en est aujourd'hui. Bah, l'approvisionnement, effectivement, on avait des bons signaux. Vous voyez, oui. La Fed de New York nous disait, ça y est, le niveau d'approvisionnement revient quasiment à son niveau pré-crise. Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? patatras, bah, que la Chine referme une partie, en tout cas à cause de la Covid, donc c'est pas du tout réglé. Donc oui, grosse crainte que ce problème d'approvisionnement refasse surface et rogne. Sur les prix de l'énergie, donc c'est comme ça que vous avez... Bah, c'est vrai qu'on a plutôt des meilleures nouvelles aujourd'hui qu'au mois d'août, puisqu'effectivement le prix du baril descend, le prix du gaz descend, le prix d'électricité descend, mais ça reste à des niveaux extrêmement élevés. Alors c'est sûr que ce choc-là est moindre, et potentiellement, on peut avoir un signal plutôt positif. Mais attention, là, c'est plus les prix le problème, c'est la quantité. C'est qu'il risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement, et donc des délestages, et donc des fermetures. Ben oui, tout ça, ça met de l'incertitude. Mais moi, je crois, entre nous, hein, la principale, et je pense que c'est dans vos sujets, donc on va en parler, c'est ce que vont faire les banques centrales. Et ça, je crois qu'effectivement... Il y a plein, il y a tous ces signaux-là, mais on les maîtrise pas entre nous. On peut pas dire ce que va faire la Chine. On peut pas. Par contre, on peut maîtriser ce que fait la Banque centrale. Et moi, je fais partie. Alors, je pense qu'on sera pas tous d'accord autour de la table que si on augmente trop vite les taux d'intérêt, alors là, on va tout droit vers la récession. Et c'est un peu. Est-ce qu'on pense que le mal aujourd'hui, c'est l'inflation? Et qu'il faut à tout prix la casser, oui. Quitte à faire une crise. Voilà.
Ben oui,
alors, dans ces cas-là, ben, on a la réponse. Donc, il y aura récession, mais d'accord. On pourra pas s'en plaindre. On la souhaite. Et on l'a fait. Ou est-ce qu'on dit non, on peut l'éviter, donc par des politiques économiques un peu plus modérées, d'accord ? Parce que c'est le mal absolu, c'est la récession, l'augmentation du chômage, l'augmentation des déficits, de la dette. Hein. Vous voyez, quand vous avez une récession, la dette explose. Voilà. Bon, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas une autre politique ? Mais vous voyez, là, du coup, c'est un peu les banques centrales qui ont la main.
Alors justement, Philippe Martin, Jacques Delplat, d'abord, est-ce qu'il faut vraiment lutter contre l'inflation ? Jacques, vous considérez que ce n'est pas l'ennemi, Jacques Delplat ?
Ben, d'abord, le choc externe négatif qui vient avec la crise de l'Ukraine et la crise énergétique, c'est de l'ordre de 3 à 4 points de PIB.
D'accord.
Donc, toute chose égale par ailleurs, on est moins riche de 3 à 4 points du PIB, chiffre Banque Centrale Européenne.
Oui, c'est les chiffres de l'OFCE aussi. Ouais.
Donc, je vois pas avec ça comment on ne peut pas être en récession, comment on peut éviter la récession. Le trend, il était probablement autour de 2%, moins 4, ça fait autour de moins 2.
Mais d'accord, bah on peut la freiner, on a bien vu que la politique monétaire en France a freiné l'inflation.
Deuxième chose, à chaque fois qu'il y a eu des chocs pétroliers externes, on se rend compte que quand on n'a pas remonté les taux d'intérêt suffisamment, l'inflation a continué, on a l'expérience des années 70, 80. Troisième chose, le mandat de la Banque Centrale Européenne est extrêmement simple. D'abord et avant tout, la stabilité des prix. Aujourd'hui, l'inflation en Europe est de un peu plus de 10%, et le core inflation, l'inflation hors énergie et produits frais, est à 5,5%. Donc, par n'importe quelle métrique, une inflation core à 5,5, ça veut dire que les taux d'intérêt doivent monter. Je ne sais pas quand on a réduit très fortement l'inflation avec des taux d'intérêt négatifs.
En tout cas, certains pensent qu'il faut changer le mandat de la Banque centrale. Ouais. Philippe Martin, par rapport à ce qu'on s'est dit et au choix de politique monétaire, Christine Lagarde nous a dit il y a 3 jours, moi je vais monter mes taux durablement. Et ça va continuer. Et on se demande si ce n'est pas au minimum 50 points de base au mois de décembre.
Jacques Delplat a raison de rappeler le mandat de la Banque Centrale Européenne.
Oui, d'accord là-dessus.
C'est 2% d'inflation. Donc on n'y est pas du tout et on n'y est pas ni sur l'inflation totale, ni sur l'inflation cœur, c'est-à-dire quand on enlève tout ce qui est volatile. Et donc je pense que l'augmentation des taux d'intérêt que la Banque Centrale a déjà fait, on est autour de 2% aujourd'hui.
Sur le refinancement.
Elle est évidemment, elle était nécessaire. Elle ne pouvait pas ne pas rien faire parce que il y a aussi la question de la crédibilité de la Banque Centrale et dont on sait qu'elle a un impact sur les anticipations d'inflation, c'est-à-dire est-ce qu'on anticipe qu'on va rester très longtemps sur un taux d'inflation parce qu'on pense que la Banque Centrale justement acceptera un taux d'inflation élevé, et si on fait ça, il y a un aspect un peu autoréalisateur.
On est bien d'accord. Sur ces éléments-là, on est bien d'accord.
C'est-à-dire que si tout le monde anticipe que l'inflation va être à 5%, ben les salaires, les prix choisis par les entreprises,
etc. Par se fixer sur cet objectif.
Donc,
c'est comme le prix d'une action pour une opéra, si vous voulez.
C'est pour ça que je soutiens le fait qu'il fallait augmenter les taux.
Vous dites qu'il fallait, mais la question, est-ce qu'il faut continuer ?
Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à augmenter ? Et là, je serais quand même beaucoup plus prudent. Parce que la concomitance des chocs, en particulier le fait que, certes, le choc d'énergie, il a eu un impact inflationniste, c'est évident. Hein. Mais Aujourd'hui, on le rappelait, les différents prix de l'énergie sont plutôt sur... penser en tout cas que le choc il est derrière nous, ça veut pas dire que ça va se réduire très rapidement. Et puis le choc de l'énergie, il faut toujours penser que c'est un choc inflationniste, mais c'est aussi un choc négatif sur la demande. Les moins 3% de revenus qu'on va avoir, qui sont quand même en partie absorbés par l'État dans la plupart, donc c'est pas moins 3 directement, hein. Il y a la moitié en gros qui est absorbée.
Ça, c'est la facture de ce que nous vivons,
voilà. les 3-4 points de PIB. Par l'État, ce qui fait qu'à la fin, ouais, c'est pas un choc de demande de moins 3.
On est d'accord.
Mais c'est un choc négatif quand même sur la demande et OFCE, d'ailleurs la consommation se réduit. Donc ça va réduire la pression inflationniste. D'ailleurs, on le voit déjà, la consommation plutôt tendance à la baisse. Et donc ça va plutôt faire le jeu d'une réduction de l'inflation. Et par ailleurs, en Europe, on ne voit pas d'explosion des salaires. Il n'y a pas de cercle.
Il y a des belles hausses en Allemagne en ce moment.
Les salaires augmentent, mais pas autant que les prix. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas, comme aux États-Unis, le fait que l'inflation dérape du fait d'une surchauffe de l'économie. Il n'y a pas de surchauffe de l'économie en Europe. Or, l'instrument de la Banque centrale, c'est justement augmenter les taux d'intérêt pour réduire la surchauffe de l'économie, pour augmenter, en effet, c'est ce que disait Eric hier, hein, il faut augmenter le chômage, en gros, pour faire pression sur les salaires. Mais ce n'est pas ce dont on a besoin. Donc, moi, je serais prudent. Alors, je ne veux pas faire celui qui est à moitié entre Jacques et Eric, mais j'aurais tendance à dire que, oui, il fallait une augmentation des taux d'intérêt, parce qu'il fallait montrer que la Banque Centrale Européenne n'allait pas laisser déraper.
On est bien d'accord sur le « il fallait », mais la question, c'est jusqu'où.
Mais voilà, là, maintenant, je serais assez prudent, parce qu'en effet, l'impact
et
de ce qui va...
prudent, c'est « je fais pause ».
Ça veut dire que je fais
jamais
une pause.
Plus de 25.
Oui.
Ah,
une ça pause. Veut dire que je fais une pause. Mais en revanche, si je vois l'inflation cœur continuer à déraper, là, je me remets à augmenter les taux d'intérêt.
C'est votre position aussi, Eric. Il faut faire une pause. C'est ce qu'a dit récemment, comment il s'appelle, aux États-Unis. Il a dit arrêtez tout, Stiglitz. Arrêtez tout. L'inflation va se calmer d'elle-même. Ne montez plus les taux.
Moi, je pense, entre nous, la Banque Centrale, aujourd'hui, ne pilote pas l'inflation à court terme. C'est pas possible. Oui, c'est un choc qui est lié à, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, ça se discute un peu plus, mais en Europe, c'est pas en augmentant les taux d'intérêt qu'on va faire baisser la pression inflationniste à court terme. Non. Donc ça marchera pas. Et même au contraire. Alors, vous voyez, on fait pas une science
exacte. Elle le fera, mais avec un coût économique très élevé.
Mais ça mettra du temps. Vous voyez, en gros, quand on utilise des modèles macroéconomiques, attention, c'est pas la vérité absolue, mais c'est des simulations. Mais que ce soit celui de la Banque de France, de Maison, chez celui de la DG Trésor, celui de l'OFCE ou ceux de la Fed, quand vous augmentez d'un point les taux d'intérêt, en moyenne, alors il y a des petites différences, ça fait 0,4 d'activité en moins, d'accord ? Donc ça provoque quand même une récession. Et sur l'inflation, ça fait combien ? Sur les prix, 0,1. Vous rendez compte que vous augmentez de 1 point, vous n'avez que 0,1 de baisse à 2 ans, hein, après à plus long terme. Pour 0,4 d'activité en moins, je veux dire, ça provoque quand même un choc très fort à court terme sur l'activité, très faible sur l'inflation. En revanche, augmenter les taux d'intérêt, me semble-t-il, ça agit sur les... C'est un peu ce que disait Philippe Martin, sur la crédibilité et donc sur les anticipations d'inflation. Et là, moi, il me semble qu'il faut plus ou moins piloter les taux d'intérêt avec les anticipations d'inflation. Aujourd'hui, les anticipations d'inflation à 2 ans ou à 5 ans, globalement, tournent aux alentours en Europe à 2, 3, 2, 4. Donc ça veut dire qu'on est peut-être au-dessus encore de la cible de 2. Donc il y a encore une augmentation des taux pour qu'on soit à 2 d'anticipation d'inflation, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le court terme qui doit piloter cela. Et une fois qu'on est à 2, donc nous, il nous semble qu'une augmentation des taux jusqu'à 2,75, 3, ça permettrait d'avoir des anticipations d'inflation bien ancrées. Et du coup, globalement, arrêtez là la politique. Si ensuite les anticipations se désancrent et retournent à 3, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il me semble que ça serait trop, comme ce que je l'entends, hein. Enfin, certains nous disent qu'il faut qu'en Europe, les taux d'intérêt soient de 5. Mais si vous mettez au début de l'année 2023, mais si vous mettez 5 de taux d'intérêt au début de l'année 2023, alors là, pour le coup, il n'y a aucune crainte pour répondre à votre question. Oui, la récession assurée en Europe.
Et Powell avait dit qu'on allait passer par la case récession et remonter du chômage aux États-Unis. Alors évidemment, quand on est à 3,7% de chômage, on peut peut-être se permettre de le voir remonter un petit peu. Bon, quelque chose à rajouter. On a fait le tour, je crois, de l'histoire. Le portrait social de l'INSEE. L'INSEE a regardé en 2020 et 2021 l'ensemble des baisses d'impôts et l'ensemble des aides exceptionnelles qui ont été délivrées par l'État ou aux ménages. Ça a rapporté en moyenne en 2021 280 euros pour une personne seule et 600 euros pour une famille. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, eh bien on voit que la moitié la plus riche de France a gagné 420 euros en moyenne. Et la seconde moitié, la moins riche, seulement 130 euros. Résultat, hier, en traitant ce sujet, pas dans la complexité des chiffres de l'INSEE, parce qu'il n'y a que nous que ça intéresse vraiment, mais sur le message, c'était « Ah ben voilà, Macron, président des riches ». Macron, président des riches, puisqu'effectivement, les mesures prises depuis, qui sont principalement fiscales, et évidemment, c'est les gens fiscalisés qui bénéficient des mesures fiscales, notamment la fin de la baisse de la taxe d'habitation, qui profitait aux 20% les plus riches qui payaient encore cette taxe d'habitation, ça réveille un message politique, Macron, président des riches. Est-ce que cette accusation est fondée? Qui veut dire un mot là-dessus? Éric, oui, est-ce que c'est fondé de dire Macron président des riches?
Oh, non, mais ça, c'est un slogan. Mais oui, mais il est évident.
Il date de 2017, oui, qui est inaliénable.
Hein. Il est évident que lorsque vous décidez de baisser la pression fiscale et, pour pas trop dégrader les déficits, baisser la dépense publique, bien entendu que ça profite plutôt aux déciles aisés qu'aux déciles faibles, puisque qui paye des impôts en termes d'impôts sur le revenu, l'IRPP, vous voyez, si on l'avait fait sur la TVA, ça aurait été une autre histoire. Mais quand vous le faites sur l'impôt sur le revenu, bien évidemment que ça aide plus les ménages des déciles 7, 8, 9 que le petit. Donc, bon, c'était logique. Et baisser la dépense publique par les réformes d'assurance chômage... c'est normal que ça pénalise plus. C'est évident. Donc, moi, il me semble que ce que l'on peut dire...
Oui, c'est évident, mais ça nourrit ce slogan politique.
Oui, d'accord. Après, est-ce que c'est efficace économiquement de le faire? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il vaut mieux, si à déficit inchangé, est-ce qu'il vaut mieux baisser la pression fiscale et la dépense publique ou augmenter la pression fiscale et les dépenses publiques? Oui, ça, c'est... Mais bon, il a été élu sur un programme. Dans ce programme, il y avait baisse des barèmes de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation pour aussi tout le monde. Bon, le résultat, il est là. C'est bien qu'on le quantifie. Il n'y a pas de trop grande surprise. Moi, il me semble que la difficulté, c'est que ça arrive à un moment, d'accord, d'une crise économique, enfin d'une crise sanitaire, où finalement, on a voulu préserver, mais ça peut revenir sur le débat, on a voulu préserver quand même, quelque part, le tissu productif et le pouvoir d'achat des ménages en mettant beaucoup de dépenses publiques, d'accord. Et donc... curieusement, c'est pour éviter les faillites qu'on a mis plein d'argent public. Vous voyez, je reviens sur le débat de tout à l'heure, augmenter les taux d'intérêt et faire des faillites, ça serait vraiment du gâchis de tout l'argent public qu'on a mis juste avant. Okay. Mais sinon, ce qu'on a voulu faire pendant cette crise, c'est sauver tout le monde. Quel est le résultat? C'est que le taux de pauvreté, et c'est ce que nous dit l'enquête, n'a pas augmenté. Donc, super, bravo. Normalement, pendant une crise économique, le taux de pauvreté, non. En revanche, les inégalités ont augmenté. Par quel mécanisme? Oui, vous aidez plus les ménages aisés et en plus vous les empêchez de consommer. Donc ils ont fait une surépargne et ça c'est le CAE qui a montré que cette surépargne elle allait plutôt dans les ménages aisés. Donc plus de revenus pour les ménages aisés que pour les ménages non aisés. Et normalement pendant les crises il y a les prix de l'immobilier qui chutent ou les actifs qui chutent. Là non, c'est les actifs en plus ont augmenté. Donc un patrimoine immobilier et financier qui ont augmenté, donc
qui ne rentre pas dans le calcul.
Qui ne rentre pas, mais ça vient se rajouter. Et patatras, parce que 2022, il y a une crise inflationniste, et l'inflation, c'est un conflit de répartition, et pénalise plus les ménages du début de la distribution plutôt que de... Et donc, du coup, tout ça, moi, c'est pas président des riches qui m'inquiète, c'est plutôt est-ce que on n'est pas, si demain on se dit il faut réduire les déficits par des baisses de dépenses dans le bas de la distribution, est-ce qu'on n'est pas, avec le retour, surtout sur une fiscalité carbone, à une crise sociale qui nous attend, un retour des gilets jaunes? C'est plutôt ça, moi, qui me dérange.
Philippe Martin et Jacques, on vous a pas beaucoup entendu depuis le début de l'émission.
Là-dessus, je suis...
Vous n'avez pas d'avis?
Si, je suis fasciné parce que... de ce débat. Parce que si l'État, c'est juste un truc où on regarde ce que je gagne et ce que je... Le cœur du sujet, c'est l'efficacité de l'État. Est-ce que ça rend les services... l'hôpital, c'est catastrophique. L'école, ça dégringole. C'est ça le vrai sujet.
Mais le vrai sujet,
après,
c'est ça.
Après, on s'en fout que c'est vraiment à la marge. Non. Et si les gens considèrent que la seule chose qui compte, c'est les inégalités à la sortie du tiroir caisse de l'État, dans ce cas-là, on n'a qu'à tout privatiser et ils se débrouillent. Si c'est vraiment ça qu'ils veulent, ouais. Et ils payent. C'est pas ça que je veux. Mais si les gens qui font que de, surtout à gauche, regarder les, mais dans ce cas-là, on arrête tout et on fait juste un truc plus ou moins de, avec une, la somme est égale à zéro. Voilà.
C'est vrai que ce thème des inégalités anime énormément les débats en France, comme le salaire des patrons, qui est un truc très très français et qu'on retrouve pas forcément dans tous les pays. On va, bon, un mot peut-être de teasing, mais on a 50 secondes, Philippe Martin, sur ce portrait social de l'INSEE et la conséquences dans la lecture politique qu'on peut en faire.
Non, juste peut-être un point spécifique sur les aides dans la crise énergétique. En effet, nous, ce qu'on avait montré, que c'est difficile en fait de cibler les aides sur les personnes qui ont le plus besoin, parce que la question, c'est pas seulement les inégalités en termes de revenus, c'est aussi les inégalités en termes d'équipement, les inégalités en termes de localisation. Et donc, en effet, quand on dit, par exemple, le choc énergétique, c'est moins 3% de revenus, après, c'est la question qui paye, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Pour la moitié, c'était à peu près l'État, puis après, il y a les ménages. Mais après, on peut se poser la question, dans les ménages, lesquels ont fait payer davantage? Et c'est là où je suis en désaccord avec, avec Delplat, parce que je pense que, de ce point de vue, il va falloir se poser la question, qui, à l'intérieur des ménages, ont fait payer davantage?
Très bonne question.
Ou moins. On peut revenir
à la pause. Je reprends cette question, excellente question, effectivement.
Je suis d'accord avec ce que dit Philippe.
Oui, mais je ne sais pas quel est le pourcentage qui est sur les épaules des ménages aujourd'hui, on verra ça peut-être avec Eric, parce que je sais que vous avez décortiqué ça. Bon, on répond à cette question, après on va regarder votre réforme des retraites, Jacques Delplat. Vous avez une proposition. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais proposé, donc on verra ce que vous en pensez.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jacques Delplat, il est économiste et il vient de fonder le fonds Climatech qu'il préside, qui est destiné donc à financer des actions de décarbonation. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Il est le co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Puis Philippe Martin, doyen de l'École des Affaires Publiques de Sciences Po, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Jacques devrait venir plus souvent, m'écrit Pyrine. Voilà, c'est sympa. Venez plus souvent, Jacques. John écrit, la BCE ne peut rien changer à une inflation apportée en Europe, mais maintenir les taux bas, c'est se priver d'une potentielle politique de relance dans le futur. C'est aussi un argument qui s'entend. Et Fredo m'écrit, Macron, président des riches, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on ne peut pas le nier. Ah ben si, voilà, est-ce que les chiffres parlent d'eux-mêmes? Qui doit payer, Philippe Martin? On sait que, oui, sur les 3 points de PIB, là, l'État en a assumé un peu plus de la moitié. Les entreprises, en 2023, vont en payer un morceau, évidemment. Les ménages aussi, mais dans les ménages, qui ont fait payer?
Non, mais c'est la bonne question. C'est, en effet, on sait que en sortie de Covid, les ménages, et en particulier les ménages les plus aisés, ont beaucoup épargné. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas pu consommer. Hein. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais donc, quand même, il y a un bas de laine très important des ménages les plus aisés. Je pense que dans une situation de crise énergétique, a priori, on l'espère temporaire. Ben, pour financer, en effet, l'absorption qui est faite par l'État du choc, je crois qu'il faut potentiellement avoir un surcroît de taxation sur les très hauts revenus.
Un impôt exceptionnel sur les riches.
Ben, non, mais c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que le taux marginal de l'impôt sur revenu, il est à 45%. On pourrait dire, pendant un an ou deux ans, on le passe à 55%. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, il a une vraie crédibilité sur le fait que ce n'est pas un président qui veut augmenter de manière permanente les impôts. Donc, il devrait utiliser cette crédibilité, parce que, évidemment, ce qu'il ne faut pas, c'est de se dire, on va augmenter de manière permanente le taux d'imposition sur les revenus.
Ça, c'est l'inquiétude que vous allez susciter.
Évidemment.
Hein, parce qu'en France, quand on fait un truc provisoire en termes de fiscalité, mais généralement, ça
tout l'intérêt de la politique, justement, de baisse des impôts de Macron, c'est d'avoir une vraie crédibilité, ce qui lui permet en temps de crise de dire, de manière temporaire, je demande une certaine solidarité aux ménages les plus aisés.
Là-dessus, pas trop long, mais là-dessus, Éric Ayer, monter le marginal pendant un an ou deux ans.
Moi, je suis d'accord avec Philippe.
Sur le fait de mettre le marginal à 55% pendant un an ou deux ans.
Oui.
Bon. Moi, je crois qu'on est un peu tous d'accord, du coup, parce que je serais d'accord. Mais vous voyez, globalement, il faut quand même rappeler les aides. Il y a eu des aides exceptionnelles pendant la Covid, des aides exceptionnelles pendant cette crise énergétique. On ne les a pas ciblées. On peut critiquer le fait de ne pas les avoir ciblées, mais de fait, on ne les a pas ciblées. C'est-à-dire que des ménages et des entreprises qui n'en avaient pas besoin en ont eu.
Ça, c'est une catastrophe.
Et donc, on peut très bien se dire.
Le fait que des entreprises qui n'en avaient pas besoin.
Surtout les ménages. Là.
Et des ménages.
Plus j'ai un gros SUV, meilleur c'est.
Eh bien, d'accord. Eh bien, donc, une idée, ça va être de dire ce qu'on a pris de façon. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on a voulu aller vite, et moi je critique pas
facile,
le côté. Ok, et du coup, de façon exceptionnelle, comme ces mesures exceptionnelles, on le récupère de façon exceptionnelle. Le pire, entre nous, serait de dire ces mesures exceptionnelles qui ont coûté très cher, on va le financer uniquement par des réformes structurelles qui vont peser sur le bas de la distribution. Et c'est, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu.
Vraiment, pensez retraites et assurance chômage.
Et ça, le message va être catastrophique dans ces cas-là. Donc, je pense qu'il vaut mieux dire c'est un impôt, je sais pas, qu'on appelle Ukraine, Covid, bien montrer pourquoi il est là et qu'il est de façon très transitoire. Mais voyez, comme en 95, me semble-t-il, Juppé avait fait un taux d'IS exceptionnel que Jospin a enlevé. Donc vous voyez, ça peut être de droite, de gauche, c'est exceptionnel et ça n'a pas vocation à rester, et c'est pour ça qu'il faut mettre un petit nom pour bien rappeler d'où ça vient.
J'entends ce que vous dites sur les deux grosses réformes structurelles, d'ailleurs une fois de plus mises en avant par le FMI il y a deux jours, qui sont une sorte de facture. On peut aussi imaginer que ces deux réformes structurelles, c'est pas non plus qu'une facture, ce sont aussi des leviers pour augmenter le taux d'emploi. Et à ce moment-là, c'est du structurel qui a quand même une vertu. Bon.
Ok, à court terme, quand même, ça pèse.
Mais
bon, donc. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux. Hein.
Non, mais.
Vous pouvez faire la réforme. Mais il ne faut pas dire les seules façons de récupérer des milliards, c'est par ces réformes-là. Et on ne met pas à contribution des ménages qui en ont profité alors qu'ils n'en avaient pas réellement besoin.
Il faudrait, dans ces cas-là, un engagement ferme sur le fait que c'est pour un an ou deux ans et pas plus. Parce que vous vous souvenez de la CRDS qui devait disparaître en même temps que la CADES devait s'éteindre. Ça remonte à 1996.
C'est un exemple. Il y a le contre-exemple, c'est la surtaxe IS.
Sécheresse.
La quoi, là ?
La surtaxe IS ou...
L'impôt sécheresse de 76.
Oui.
Et en 95,
la vignette auto aussi.
Bon, qui a disparu, donc ça existe.
Les retraites. Jacques m'envoie toujours des propositions avant de venir dans l'émission. C'est toujours inattendu. Alors, vous proposez quelque chose. Je vais le résumer dans mes mots, pour qu'on aille droit au but. Et vous me direz comment ça fonctionne et ce que vous voulez dire au fond. Vous imaginez un système des retraites qui serait à deux niveaux. Il y aurait un premier niveau qui serait complètement piloté par l'État. L'État verserait à partir de l'impôt, payé par l'impôt, les 750 premiers euros de pension de retraite pour tout le monde. Ça, c'est le modèle dit beveridgien. Et puis l'étage numéro 2, au-delà de ce montant, on passe à un modèle bismarckien. Donc un modèle de financement par répartition totalement géré par les partenaires sociaux. Ils ont la main sur tout. Ils ont la main sur les mesures de pénibilité. Ils ont absolument la main sur tout. Ils sont rémunérés pour ça. Mais ils ont une interdiction, c'est de terminer l'année dans le rouge. Dès l'instant où ils bouclent l'année dans le rouge sur cette partie-là, cet étage 2, eh bien l'État reprend la main, exit les partenaires sociaux et ils ne reviennent qu'à partir du moment où on est revenu à l'équilibre.
Oui.
Est-ce que c'est imaginable?
Oui, ça existe
quelque part.
Ça existe dans beaucoup de pays, notamment dans d'Europe du Nord et autres. Il y a déjà une bonne partie du système actuel qui est comme ça, sans qu'on le sache.
Oui, oui.
Le système actuel est tellement incompréhensible que.
Vous dites le système actuel, notre système actuel, par
exemple. Oui, parce qu'il y a des subventions de l'État à tel régime et tout. Moi, je propose très simplement que l'État finance la première moitié, grosso modo.
Oui, j'ai bien vu.
Et que. Il fasse ça avec le budget, le projet de loi de finances.
Donc
les syndicats, ils n'ont rien à dire. Comme c'est de l'impôt, les syndicats n'ont rien à dire.
Rien à dire. Donc ce ne sont plus des cotisations.
Voilà.
Ce ne sont plus des
cotisations. C'est à proportion des trimestres, comme aujourd'hui, des trimestres
payés.
Voilà. Bon. Donc, et après, tout le reste, et c'est ça qui est important, tout le reste au-dessus, c'est les syndicats, enfin, c'est les partenaires sociaux qui s'en occupent. Sinon, ce n'est qu'une boîte à baffes. Aucun gouvernement ne peut gagner là-dessus. Les syndicats, ils disent, ah oui, mais la pénibilité. Ils ont raison, c'est eux qui ont l'information sur le terrain.
Mais alors,
et donc, ils se débrouillent.
Ils se débrouillent, mais comment? Ils n'ont pas la main sur le. Enfin, ils se débrouillent, ils vont monter les cotisations pour être sûr d'être
alors ça, à l'équilibre. Comme ça doit passer
c'est,
par
c'est
le.
C'est ça l'histoire.
Non, mais comme ça doit passer par le Parlement, par le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ça, ils ne peuvent pas.
Eh bien voilà.
Donc,
autant ça, ils ont la main aujourd'hui sur les cotisations
non,
chômage
non.
À l'UNEDIC, c'est le seul impôt qui n'est pas décidé
par le Parlement. Oui, mais les retraites, ça passe par la loi de finances. Des sélections sociales.
Oui.
Mais les gouvernements, ils sont pas idiots, ils vont pas voter massivement contre les propositions des partenaires sociaux. Il y a les syndicats salariés et patronaux. Ouais, c'est le dialogue social.
Mais parlons net, Jacques Delplas, ça veut dire que les cotisations vont monter si on s'interdit au moindre.
Peut-être ou peut-être pas. Je sais pas. C'est, bon. Moi, j'en sais rien.
Ah ben, je sais pas. Mais
alors, et surtout le troisième point qui est très important. Même mon collègue et ami de l'OFCE est d'accord avec moi.
Allons-y.
La répartition.
Oui.
C'est la répartition dans l'année des cotisations prélevées pour donner aux retraités de l'année. Donc tous les gens qui aiment la répartition, moi mais aussi normalement tous les syndicats ouvriers de Sud à la CFTC, ils devraient applaudir que la répartition, il y a zéro déficit. Par construction, par définition.
Un système d'assurance.
Et ce jour-là où on met une contrainte budgétaire importante, eh bien, après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner la retraite à 45 ans aux cheminots et à 35 ans à la Banque de France, ils se débrouillent. Bon. Mais devant le regard du public, et ils se débrouillent.
Bon. Normalement, un système d'assurance doit être à l'équilibre. Si on avait des assureurs privés pour nos voitures qui étaient complètement dans le rouge, je ne pense pas qu'on aurait envie.
Et c'est la première partie étatique qui fait l'ajustement macroéconomique. Et les syndicats, ils se débrouillent.
Ça vous êtes séduit par l'idée, je ne sais pas, Philippe Martin?
Moi, je suis un orphelin de la réforme systémique, c'est-à-dire que je
vous êtes orphelin de la réforme systémique.
Bah, c'est-à-dire qu'on l'a pas faite, donc.
Ah ben, personne n'en veut. Mais voilà, je savais pas que vous étiez orphelin de celle-là.
J'étais favorable à une réforme qui simplifie le système, qui unifie le système, etc. Donc
réforme à laquelle plus personne ne comprenait rien à la fin. J'ai reconnu moi-même que je commençais à avoir du mal à l'expliquer.
Je suis d'accord, mais toute réforme des retraites est quand même relativement complexe parce que aussi le système, mais aussi parce que le système actuel est extrêmement difficile à comprendre.
Les paramètres, c'est complexe.
On est d'accord. Alors, les paramètres, mais on est bien d'accord que le débat actuel, c'est pas du tout le débat qu'essaye de lancer Jacques Delplat.
Non, mais j'aime bien les idées neuves.
Mais bien sûr, tant mieux. Au contraire,
même un peu iconoclaste.
Je pense qu'à un moment, de toute façon, il faudra revenir à une grande réforme du système des retraites. Donc là, c'est pas le débat actuel, mais le débat actuel, il est pas sans importance quand même, sur l'âge d'ouverture des droits, sur la durée de cotisation, comment on va mixer ces deux paramètres, parce que à la fois en termes d'équilibre financier, de retour rapide ou pas à l'équilibre financier, et puis en termes d'inégalité, c'est pas du tout ce débat, il va être extrêmement important. Donc on va pas l'avoir aujourd'hui parce que c'est un peu complexe, mais je suis d'accord que c'est intéressant d'avoir des débats conceptuels sur le système des retraites, mais c'est pas le débat qu'on va avoir dans les trois mois qui viennent.
Bon, cette proposition qui effectivement n'éteint pas les sujets sur la durée de cotisation et l'âge de départ. Et d'ailleurs, vous le dites, Jacques. Hein,
c'est les syndicats, patronaux et salariés qui se débrouillent. Ils décident.
Ils se débrouillent, mais enfin, vous dites que sur l'étage 1, qui est totalement étatisé, payé par l'impôt, l'État peut décider qu'il verse ses montants à un âge de départ légal, qui ne serait plus 62 ans.
Et aujourd'hui, pour le minimum vieillesse, c'est 65 ans.
Pour le 65 ans pour le minimum 10. Ouais. Eric, là-dessus, s'il y a quelque chose à rajouter.
Jacques a toujours beaucoup d'idées originales, stimulantes.
Je me souviens de sa dette bleue, sa dette rouge.
C'est toujours génial. Bon, c'est pas la plus révolutionnaire, celle-là. Entre nous, ou alors je n'ai pas bien compris.
Il est déçu.
Non, mais oui, un poil, parce que ça casse pas tout le système.
D'accord,
ok. Donc, ça simplifie un peu. Alors, je suis un peu aussi d'accord avec Philippe. Sans être orphelin, réellement, je trouve qu'on a manqué la simplification, et c'était ça qui était bien. Après, elle était un peu trop compliquée. Non, mais oui, parce qu'on ne sait pas de quoi.
Oui, mais
il y avait trop de réformes dans la
rue. La rue ne te donnera pas une deuxième truc. Ça a été planté une fois. Mais ça ne va pas revenir avant 20 ans.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est planté? Je pense que c'était le à point qu'il fallait pas faire, mais moi je me semble, je suis orphelin en tout cas, on essaye d'unifier tous les systèmes, et ça je pense que c'était une bonne idée d'essayer d'unifier, de simplifier, je pense. Mais après, si en plus on veut passer,
je suis plus sûr de ça, Eric, aujourd'hui.
Oui, non, mais je suis plus sûr.
Je me demande s'il faut pas un régime privé, un régime public,
je pense. Après, bien sûr que on se plie à ce que veut aussi la majorité, mais moi il me semble que c'était la bonne réforme. Ensuite qu'on passe d'annuité au point, ça je pense c'était, il fallait pas le faire parce que ça amplifiait le problème. Et en plus, on mettait du paramètre. Donc, il y avait trop dans la réforme précédente. Mais je pense qu'il fallait effectivement unifier pour qu'on sorte un peu de ce débat. Est-ce que vraiment les retraites des fonctionnaires sont beaucoup plus généreuses que les retraites du privé? Qu'on mette tout ça à plat et qu'on le mette dans le même régime et qu'on aille vers ce que propose Jacques. Pourquoi pas? Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même les questions centrales. C'est combien on veut consacrer à nos retraites de points de PIB? Est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 12? Qui le fixe? Oui. Est-ce que ça va être les partenaires sociaux qui vont le fixer ? Et alors que c'est central, combien on veut mettre ? Alors parce que j'ai compris que la base, enfin, si j'ai bien compris, la base, ça va pas bouger, et que c'est ensuite les cotisations qui vont donner le montant. Qui décide ? Est-ce que c'est 14 ? Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 12 ?
Point de PIB. Etc.
De point de PIB. Ça, je pense que c'est important. Ça ne répond pas au problème. Alors je suis d'accord, il faut que ça soit financé année par année. Alors quand on a une petite crise, on peut admettre un petit déficit, mais un excédent l'année suivante.
Non.
Bon, enfin, ok. Moi, potentiellement, les stabilisateurs automatiques, c'est important.
C'est avec l'étage 1, pas l'étage 2.
Bon, peut-être, d'accord, mais il y a cette question-là. Et la question aussi de comment, ensuite, on indexe les retraites. Ouais, est-ce que c'est sur les prix ? Est-ce que c'est sur les salaires ? Et ça, moi, je pense que ça, c'est une bonne réforme. Je pense que la réforme de 93, de Balladur, elle est catastrophique. Quand on désindexe les pensions des salaires et qu'on le met sur le prix, alors que les cotisations sont indexées sur les salaires, ça, je pense qu'on paupérise, sans le dire, relativement,
c'est
les retraites.
Pour ça. D'accord. Bah, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'on reste dans une situation où les retraités ont 110% du revenu des
actifs. Oui,
des
je actifs. Suis d'accord, mais tu as
et la
bien
deuxième
vu
chose, c'est que si on n'avait pas fait.
Bien que hors
non,
réforme,
mais
quand même,
ça pose un problème à terme, hein, si les retraites sont indexées sur les prix et pas sur les salaires. Mais n'empêche que c'est ce qui a évité qu'on passe à 16 ou 17% du PIB.
Oui, mais sans le dire.
Les après, je suis d'accord, ça n'a pas été transparent du tout. Et ça, ça pose
un problème. C'est pas la première fois, Eric. On réforme sans que ça se voit.
Bon, oui, mais c'est intéressant que en fait, la très grosse réforme de retraite, c'est celle de 1993.
Oui.
C'est celle qui désindexe les retraites sur les salaires. C'est ça qui a été vraiment énorme.
Parce que, en fait, ce que vous proposez là, Jacques, c'est toujours 14 points de PIB à l'arrivée ?
Mais j'en sais rien, c'est pas moi de décider.
Ah, c'est pas vous de décider.
Mais je pense que c'est à l'État de décider. Bah, en tout cas, c'est une décision démocratique et je ne vois pas pourquoi
c'est d'abord, la première chose, si l'État, dans mon idée, l'État, aujourd'hui, c'est 65 ans, minimum vieillesse, c'est ça. Donc, sur la partie première, l'État commencera à 65 ans. Si les syndicats et partenaires sociaux veulent absolument maintenir à 60 ans, ben, ils se débrouillent avec leur partie numéro 2 de payer l'intégralité des retraites entre 60 et 65 ans.
Bah, sans monter
mais
de cotisations,
ils
n'arriveront
pas. Juste,
pas.
Il faut que les gens soient responsables.
Ah, ouais, mais.
Voilà. Et quand ils ont une contrainte budgétaire dure, ça change tous les esprits.
Mais
Janos Kornay, qui était un économiste hongrois, disait que le communisme est mort parce qu'il y avait soft budget constraint. C'était des systèmes où il n'y avait aucune rigueur et tout a explosé.
Macron est obligé d'être président des riches car il n'y a plus qu'eux qui paient des impôts.
Okay, ça, c'est pas tout à fait vrai. La CSG, la TVA est payée par beaucoup de gens.
Je ne sais pas comment l'opinion réagirait à un projet comme celui-là. Est-ce que c'est un projet de technicien qui n'intéresserait pas l'opinion ? Est-ce qu'on se dirait... est-ce que ça pourrait installer l'idée qu'il y a une nécessaire responsabilité sur un sujet comme celui-là ?
Non, c'est les syndicats que je veux convaincre. L'opinion, j'en sais rien.
Bon.
Mais c'est les syndicats qui mettent les gens dans la rue.
Mais tout de même,
les syndicats, généralement, c'est l'annonce d'une borne d'âge qui bouge. Hein.
Mais oui, mais du coup, non mais est-ce qu'on le fait plutôt par la durée, par là ? Je pense qu'on répond pas à ces questions-là.
C'est les syndicats qui se débrouillent.
Mais oui, mais on peut pas laisser ça aux syndicats.
On peut pas le laisser au gouvernement parce que chaque fois il y a 2 millions de personnes dans la rue. Voilà. Moi, je regrette à titre personnel que ce soit pas le gouvernement qui décide de l'intégralité des retraites. Voilà, c'est mon jugement tout à fait personnel. Ça m'arrive. Non, c'est ma préférence personnelle.
Beveridge à
100%. Et je pense que les syndicats n'ont aucune légitimité là-dessus. Ça, c'est mon opinion personnelle.
D'accord.
Je constate que cette solution, elle ne marche pas. Donc j'essaie de réfléchir à quelque chose qui serait acceptable par les gens dans la rue et en particulier par les syndicats.
L'étatisation, c'est ce à quoi on assiste pour l'assurance chômage, par exemple. Très objectivement.
Oui, oui.
Bon, et on se dirige tout droit vers un système totalement étatisé.
Non, pas totalement. A priori, c'est une gouvernance où il y aurait en effet les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, et aussi l'État. Mais je rappelle que
vous avez vu l'ambiance gouvernance tripartite il y a 2 jours.
Mais dans tous les pays européens, c'est une gouvernance tripartite. La France est le seul pays où l'assurance chômage, alors jusqu'aux réformes récentes, était entièrement gouvernée par le patronat et les syndicats. Et quand même, il me semble que l'État a son mot à dire, parce qu'à la fin, c'est quand même l'État qui garantit la dette du système. Je pense que c'est normal que l'État soit aussi impliqué dans cette gouvernance.
Là, on sent clairement que l'État est plus qu'impliqué dans cette gouvernance.
Absolument.
Les partenaires sociaux sont arrivés chez Olivier Dussopt en début de semaine. Il leur a dit, voilà ce qu'on fait. D'ailleurs, on n'utilise plus le mot de négociation.
Il faut retrouver une gouvernance qui soit plus équilibrée. Mais il ne faut pas revenir au système D'accord. où finalement les partenaires sociaux décident et l'État paye en partie.
La gouvernance sera un sujet qui sera au menu du début de l'année 2024. Mais jusqu'à la fin de l'année 2023, c'est vraiment, a priori, l'État qui va prendre la main sur à peu près tout.
Si je peux reprendre la dernière phrase de Philippe, je ne suis pas complètement d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est les syndicats qui décident et l'État qui paye dans les dernières mesures?
Absolument.
Je crois que là, aujourd'hui, même si on regarde depuis 2000, depuis qu'il y a un déficit de l'assurance chômage, parce qu'avant 2000, l'assurance chômage était équilibrée, malgré des taux de chômage élevés. Depuis 2000, effectivement, il y a un déficit de l'assurance chômage qui, à mon sens, n'est pas dû aux partenaires sociaux, mais aux décisions de l'État, d'accord ?
De cofinancer le Pôle emploi et de prendre à sa charge les intermittents.
Exactement. Et ça, est-ce que c'est dû... Enfin, ouais, et
si on retirait ces éléments-là, on serait à l'équilibre, vous croyez ?
Alors ça, c'est les travaux de Bruno Coquet qui le montrent, et qui montrent, en gros, globalement, la dette... Alors après, il y a l'activité partielle, mais ça aussi, c'est une décision de l'État, de mettre l'activité partielle et de dire à l'UNEDIC, tu finances un tiers de cela. Ouais, c'est ça qui a mis dans le rouge, les finances de l'UNEDIC. Bon, donc c'est plutôt dans l'autre sens, me semble-t-il, et je pense que c'était relativement bien géré d'un point de vue de l'équilibre financier. Il n'y avait pas de déséquilibre de l'assurance chômage quand c'était uniquement les syndicats qui le géraient.
Disons un mot justement de l'assurance chômage. J'aimerais avoir votre avis sur l'arbitrage qui a été... C'était un arbitrage du gouvernement, hein, qui a été retenu par le gouvernement. Donc cette durée d'indemnisation qui sera le seul et unique paramètre qui sera amené à évoluer en fonction de la météo de l'emploi, les périodes vertes ou périodes rouges, avec deux paramètres de variation, à la fois un taux de chômage pivot à 9%, mais aussi des variations trimestrielles de plus 0,8 qui pourraient faire basculer d'une période à l'autre. Et donc, en période verte, ça va être le cas avec les 7,3 d'aujourd'hui, et donc normalement début février, tous les gens qui auront perdu leur job et qui seront au chômage début février devraient connaître la nouvelle donne de durée d'indemnisation, amputée d'un quart quand on est en période verte. Qui a un avis là-dessus ? Qui considère qu'il fallait le faire et que pour des droits pleins à 24 mois tombés à 18 mois, on reste sur quelque chose quand même qui apporte une sécurité assez importante. Et Jacques, oui, allez-y.
Moi, je suis contre.
Vous êtes contre quoi
Le principe même que l'État intervienne là-dedans. Je pense que ça doit être renvoyé.
Là, c'est de la gouvernance encore.
Bah oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un gars qui sort que personne ne connaît, M. Dussopt, à peu près, qui dit ah ben ça va être. J'ai décidé dans ma petite tête que c'était 9%, et puis ça baisse de ceci, cela, d'où ça sort. J'ai aucune explication. Et donc, l'idée peut-être de réduire la période de chômage est probablement une bonne idée, puisqu'on est le plus. Mais c'est surtout, je ne vois absolument pas pourquoi. Ça sort comme ça, c'est pas discuté. Et là, d'ailleurs, je regrette que les syndicats fassent pas des manifs monstres là-dessus. Enfin, c'est pourquoi ça devrait être laissé aux syndicats et aux patrons. Voilà.
Comme en Suède. On n'a jamais mobilisé vraiment autour des réformes d'assurance chômage, alors que celle des retraites, il suffit de les effleurer pour que tout le monde s'excite. C'est de la gouvernance quand même. Philippe Martin, soit sur la gouvernance à nouveau, ou sur le principe de dire qu'on va indemniser moins longtemps. Est-ce que ça incitera à rechercher un emploi plus rapidement ?
Alors, Jacques l'a dit, c'est vrai que la France a une durée d'indemnisation qui est parmi les plus longues en Europe. Et sur l'assurance chômage, il faut trouver le bon point d'équilibre entre l'incitation et quand même la durée d'indemnisation peut avoir un impact sur l'incitation à reprendre un emploi. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte parce que sinon, on reprend n'importe quel emploi. Et l'autre partie de l'équilibre, évidemment, c'est l'assurance des revenus et qui est très importante aussi d'un point de vue non seulement individuel, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue macroéconomique, pour que quand il y a une augmentation du chômage, il n'y ait pas un effondrement de la consommation qui aggraverait la récession. Donc il faut trouver ce point d'équilibre. Là où je suis d'accord, c'est que ce point de moins 25%, 9%, etc., moi j'aurais bien voulu voir les travaux, et je ne sais pas si on les a, de simulation de qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue à la fois macroéconomique, en termes d'inégalité, en termes sociaux. Donc je pense, moi je suis favorable au fait que la durée d'indemnisation puisse varier au cours du cycle. Je pense que d'un point de vue macroéconomique, ça se comprend, c'est-à-dire qu'on met davantage le poids sur la question de l'incitation l'habitation quand le taux de chômage est faible et sur l'assurance quand le taux de chômage est élevé. Donc moi, je comprends tout à fait cette logique. D'un point de vue quantitatif, j'aimerais bien comprendre et voir les chiffres, les simulations. On est capable de faire des micro-simulations sur comment ça touche les différentes personnes et qu'est-ce que ça signifie en termes d'équilibre général macroéconomique quand on fait ce genre de choses. Donc je comprends la mécanique économique, mais c'est vrai que j'aimerais bien voir l'étude d'impact.
Martin a raison.
Éric, ailleurs.
Alors j'allais vraiment rebondir là-dessus. L'étude d'impact, c'est quand même incroyable qu'il n'y en ait pas.
Il y a eu plein de travaux qui ont été menés.
Alors qu'il y a des travaux, mais là on ne voit pas l'étude d'impact sur cette mesure-là. D'accord. Enfin, donc on ne comprend pas pourquoi le 9%, etc. Moi, entre nous, ma vision, c'est que le 9%, on ne l'atteindra plus jamais. Hein. Vous voyez, il y a quand même des grandes chances. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des grandes crises, on met de l'activité partielle, donc le taux de chômage n'augmente pas, on le fait par du déficit. On a compris que l'activité partielle, c'était une bonne chose. Donc
il a fallu des années pour comprendre
Population active et du ralentissement de la population active et de ces éléments-là, on ne sera jamais dans le rouge.
Je suis certain.
Je pense qu'il ne faut jamais dire jamais.
Oui, mais enfin, il y a vraiment des très grandes chances qu'on soit.
Mais là où Éric a raison, c'est que cette réforme, je réduis d'un quart la durée.
Et il y a une chance qu'on ait un autre registre qui soit le bleu, enfin encore plus, et qu'on durcisse parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que si on arrive près du plein emploi, ils n'ont pas déterminé quel était le taux de chômage de plein emploi, on rediminuerait encore la durée. Donc la probabilité est plus qu'on continue à durer.
Vous l'avez entendu ça,
Il y a ces éléments-là.
Terminé, on a 3 minutes. Donc,
ok, c'est pour ça. Moi, je voulais préempter le débat. Je voulais parler de la révolution sur le prix du carbone.
Ah oui, mais alors, terminez juste, Éric.
La durée, il ne faut pas la réguler en fonction de la conjoncture, même si je suis quand même toujours très contracyclique.
Oui,
mais elle est déjà contracyclique, l'assurance chômage, mais plutôt sur la microéconomiquement, d'où vient la personne. Si elle est très éloignée du marché du travail, il faut une durée du travail très longue et avec des politiques actives pour le retourner. S'il est très proche du marché du travail, il faut une durée du travail plus faible. Donc ça, c'est bien plus efficace, nous dit Pizarides, notamment, et des prix Nobel d'économie.
Vous vouliez en parler, on termine avec ça, on a 2 minutes 30, Jacques Delplat. La révolution sur le prix du carbone.
Ah oui, c'est majeur, énorme, gigantesque. Le ministère de l'Environnement américain a publié le 10 novembre ses nouvelles estimations de ce que devrait être le prix mondial du carbone, partout.
C'est l'objectif
de la tonne de CO2, exactement, oui. De dioxyde de carbone. Pour résoudre le problème climatique, c'est ça qu'on devrait faire. Donc c'est du devoir-être, c'est de la prescription. Les chiffres, c'est qu'on... Alors aujourd'hui, le prix mondial moyen, c'est 3 dollars la tonne de carbone. Hors Union européenne, c'est 2 dollars. Et le gouvernement américain propose de passer à 200 dollars aujourd'hui, déjà, tout de suite, pour aller à 230 en 2030. Donc, grosso modo, la prévision officielle, la recommandation du ministère de l'Environnement américain, c'est qu'il faut multiplier le prix de la pollution carbone par 100. Pas 10, 100. Et donc, ils disent, c'est le seul moyen pour réduire massivement et jusqu'à zéro, la net zéro, les réductions les pollutions climatiques. C'est monstrueux comme proposition.
Mais monstrueux, c'est la chose qu'il faut faire et on n'a pas le choix.
Les chiffres sont monstrueux. Alors après, ce que va faire Biden et tout, c'est compliqué et tout. Mais ça veut dire que la pensée derrière, en tout cas, ce gouvernement démocrate, il s'est fait avec des gens exceptionnellement bons. C'est 100 fois plus. Et avec ça, on peut réduire massivement, être en ligne avec ce qu'on doit faire.
Mais les Américains sont totalement schizophrènes, parce que d'un côté, ils disent ça, 200 euros, et en même temps, ils refusent de mettre en place une taxe CO2 comme on l'a en Europe. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'ils décident.
Oui, mais il y a un moment aussi, il faudra dire qui va payer, là.
Mais ça, c'est très important. C'est qu'est-ce qu'on fait des recettes de ces taxes carbone? Et c'est est-ce qu'on les redistribue?
Il nous vient ou pas?
Exactement. Bon. Et ça, c'est un élément majeur.
C'est chaque gouvernement qui décidera. C'est le Parlement. C'est la vie démocratique. Il faut arrêter de vouloir faire le bien à la place des gens.
C'est pour que ça soit accepté, il faut que ça soit redistribué.
Ça, c'est toi qui le veux. Mais les États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc, tu ne vas pas décider pour le Parlement américain.
C'est bon senti. Quand tu dis que la transition verte coûtera de l'argent et qu'elle va installer.
Ah non, parce que si chaque pays le paye, ça reste. Si chaque gouvernement le met dans ses soutes, il n'y a pas vraiment de problème.
Hein. Mais c'est pas bon, enfin, voilà. on en aura dit un mot. C'était un peu rapide, mais on en aura dit un mot. 100 fois plus.
Ouais.
100 fois plus. 230
euros. De 2 euros.
Parce qu'on parle de 2. Parce qu'on parle de 2. Merci, Jacques Delplat. Mais revenez plus souvent, Jacques. Vous êtes le bienvenu. Eric Ayer et Philippe Martin. On se retrouve demain à 9h.